Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de l'Eclectic Show. Ça fait plaisir de vous parler. Ça fait maintenant un mois. J'essaie de tenir la route au mois d'enregistrement. Et puisque j'essaie aussi de tenir la route, c'est d'avoir des invités. Et cette semaine, vous allez voir, on a des invités tout à fait extraordinaires. Alors là, la barre est haute pour les invités qui vont parler après. Alors en note d'ouverture, merci pour vos retours de l'épisode du dernier épisode 21 avec Guillaume. On a eu beaucoup de plaisir à la faire, beaucoup de plaisir à vous lire par après. C'était très chouette. Merci pour vos retours, super intéressant. Aussi, je voudrais dire ce qu'est l'émission au début de chaque émission. J'aimerais prendre cette habitude là pour ceux qui arrivent en plein cours d'influx de podcast. J'allais dire Niptech, c'est quoi? L'Eclectic Show, c'est quoi? L'Eclectic Show, c'est une émission sur le life hacking, la tech et tout autre chose connexe. L'idée, c'est toujours d'optimiser, de s'améliorer, puis d'apprendre. Je pense depuis que je fais du podcast, l'idée principale de ça, de l'idée de faire du podcast, c'est de partager avec vous, d'échanger et d'apprendre. Moi, ma cour à moi, mon carré de sable, comme on dit, ben le life hacking et la tech, ce qui fait que je peux aller jouer là-dedans avec beaucoup de choses. Et pourquoi c'est éclectique, et c'est pour ça que le titre est Eclectic Show. Mais vous êtes là pour nous écouter parler, discuter, parce que on me l'a demandé. Et cette semaine, j'ai deux invités extraordinaires, fabuleux, magnifiques. Le premier, et non le moindre, l'ami Julien, qui a fait une apparition dans l'épisode 18, 19 ou 20. Julien, t'étais dans quel épisode, toi?
Oui, bonjour à tous. Hello. Salut. J'étais épisode 20.
20, hein?
Sur les médocs.
Alors, pour rappel, Julien est entre autres comme profession, est pharmacien, et il est assez éclectique, lui aussi. Et puis, un petit nouveau qui vient rejoindre, qui fait un premier test avec nous, l'ami Yannick.
Bonjour, Matt.
Alors, Yannick, il va falloir que tu te présentes, tous les nouveaux qui viennent à l'émission se présentent, et puis ben on le fait toujours dans les trois mêmes questions, là. Qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi le podcast?
Alors moi je suis de Rennes, en Bretagne, un curieux de tout, donc un éclectique,
oui.
De tech notamment, hein, mais pas seulement, je m'intéresse à beaucoup de sujets. Sinon, dans la vie, je suis marié, j'ai des enfants, j'en ai trois. Professionnellement, je suis consultant dans une très grande entreprise d'origine canadienne. Ça s'appelle CGI.
Ah oui, CGI, alors c'est une firme de chez nous, bien de chez nous. Plus principalement sur la tech, hein, le développement, la consultation, c'est ça, hein?
Oui, c'est vraiment du conseil et du service dans le domaine des projets numériques. Donc c'est vraiment des domaines très larges et on intervient un peu partout dans le monde.
Parfait. Puis tu m'avais contacté parce que ben j'avais fait un appel à tous pour avoir des collaborateurs, des gens pour venir faire des tests en podcast. Et puis ben pourquoi l'intérêt au podcast et surtout à l'éclectique?
Alors le podcast, ça fait quelques années que j'en écoute. Alors notamment des podcasts de Patrick Béja. J'ai commencé avec le Rendez-vous Tech. Et j'ai écouté aussi pas mal les podcasts de la galaxie NIP.
Oui.
En premier lieu, NIP Tech. C'est là que j'ai découvert ta douce voix, Matt. Et ça m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à la construction de ce type de médias et de pourquoi pas participer à mon tour. Et comme tu as fait appel à des contributeurs, j'ai proposé ma participation.
Ben c'est ça la force de l'éclectique, c'est la communauté. Puis ben, en voici une belle preuve. Alors on va évidemment embarquer sur les sujets pour lesquels vous avez syntonisé notre émission. On va passer tout de suite au life hacking. Alors cette semaine, au niveau du life hacking, on a décidé de faire travailler Yannick. Et puis là, je vais faire une petite présentation. L'ami Mika Paquet, qui a démarré son nouveau podcast M'Optimise, a fait une capsule sur le même sujet. Alors j'ai communiqué avec lui hier pour lui dire ben excuse, on avait aussi pensé faire cette capsule là. Et puis en fait le sujet c'est le livre de Tim Ferriss, 4 heures, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et Yannick n'a pas écouté la capsule, alors on va en discuter ensemble. Et puis lui, il n'aura pas été biaisé comme moi par l'ami Michael Paquet. Alors, juste d'entrée de jeu, qui est Tim Ferriss? Tim Ferriss, c'est une personnalité de la tech assez connue au niveau de beaucoup de compagnies. Il a travaillé, sa première compagnie, c'était Bren Quicken. Ouais, c'est ça, une entreprise de vente en ligne sur les compléments nutritionnels. Il a été business angel pour StumbleUpon, Evernote, Facebook, Twitter. En tout cas, vous voyez un peu qu'il est assez bien placé. Il a gagné beaucoup de prix, comme en 2012, il a été listé par Newsweek comme la 7e personnalité la plus influente d'Internet. Ça vous donne, ça vous brasse un peu le personnage. En 2008, il a remporté le prix du plus grand autopromoteur de tous les temps. Il a développé beaucoup de techniques qui sont assez intéressantes sur Internet, notamment le livre dont on va parler, La semaine de 4 heures. Puis avant qu'on en discute avec Yannick, La semaine de 4 heures, le titre n'est pas anodin. Vous allez voir un peu le personnage, vous allez comprendre un peu le personnage. Il a décidé du titre en allant voir quelle puissance avaient les mots sur AdWords pour voir quel était le meilleur titre qui allait ressortir le plus dans les moteurs de recherche. Alors, La semaine de 4 heures, ça a été le résultat de sa recherche. Fait que c'est comme ça qu'il a bâti son livre.
On n'y croit pas, La semaine de 4 heures.
Non, on va en parler avec avec Yannick, mais vous voyez un peu le personnage au niveau marketing personnel, il est très très fort. Alors Yannick, toi, quand je t'ai parlé de La semaine de 4 heures, ça t'a tout de suite intéressé pour justement quoi, économiser du temps dans une semaine parce que t'as 3 enfants?
ça pouvait être effectivement une orientation. Non, de manière générale, je m'intéresse au livre de développement personnel et j'avais entendu parler de ce livre déjà depuis un certain temps. Ouais. Ça fait partie des références du genre.
Tout à fait.
Et donc, je me suis dit pourquoi pas jeter un coup d'œil.
Alors, d'entrée de jeu, avant que tu nous en fasses un petit résumé, si tu veux bien, toi, as-tu aimé, as-tu appris des choses dans ce livre-là?
Alors, oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aimé lire ce livre. Je reviendrai un peu plus en détail sur ma perception de ce que j'ai lu. Mais globalement, je le conseille à tous ceux qui se posent des questions sur comment améliorer leur existence de manière générale.
Ouais, parce qu'il est très dans le life hacking, mais plus développement personnel dans son livre. Parce que je me rappelle, moi, je l'avais lu, ça fait longtemps. Puis, pour être très, très franc avec les auditeurs, je l'ai arrêté après 3 ou 4 chapitres. Ça m'a sérieusement... parce que j'ai le droit d'arrêter un livre en plein milieu quand on l'aime pas. Ça m'avait... J'avais trouvé l'aspect marketing beaucoup, beaucoup trop présent là-dedans. Je trouvais que la façon d'écrire ou de la façon qui parlait de ça, c'était trop le marketing du 4 heures au début. En tout cas, j'avais pas trop aimé ça. Vous savez, on entend beaucoup ces Américains qui font de l'autopromotion, puis on trouve ça, nous ici, on appelle ça fake, pas vrai, ça a pas l'air naturel. Puis c'est un peu la sensation que j'avais eue La semaine de 4 heures. Toi, Yannick, est-ce que ça a été ça au complet? Parce que moi, j'ai juste les 4 premiers paragraphes dans le corps.
Alors non, j'ai réussi à y trouver beaucoup de bons côtés et je trouvais que la lecture était plutôt stimulante.
Ok.
Donc ça m'a donné envie de poursuivre malgré effectivement ce côté très too much dans la manière de se présenter lui-même et de présenter ce qu'il proposait.
Bon, là, mais qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Il donne des conseils concrets
Entrons dans le vif du sujet peut-être, Yannick. Toi, ce que tu as retenu globalement du livre, c'est les conseils ou des choses comme ça?
Alors, je vais vous résumer un petit peu le livre.
Oui.
Parce que je pense qu'il faut en voir un petit peu la structure pour comprendre ce qu'il propose. En fait, il commence son livre par se présenter lui-même, donc expliquer sa vie, tout ce qu'il a pu connaître dans son existence, donc avec des hauts et des bas, ce qui fait que tout de suite on se sent proche de lui. Et ensuite, il explique une méthode. Et cette méthode, elle passe par plusieurs principes. Le premier, c'est déjà essayer de changer d'état d'esprit. Donc, il donne des concepts en fait qui nous amènent à voir la vie un peu différemment, et notamment la vie professionnelle. Je vais donner un exemple. Par exemple, il évoque la notion de richesse relative. Il explique que quelqu'un qui est très très riche, mais qui bosse à plein temps, en richesse relative, il est moins riche que quelqu'un qui bosse 4 heures par semaine, mais qui gagne beaucoup moins. Donc il fait des rapprochements comme ça, et il essaye de nous faire changer un petit peu notre manière de percevoir la vie et la manière dont on gagne de l'argent. Il y a aussi la notion de retraite. Pour lui, il ne faut pas attendre d'avoir travaillé 40 ans et ensuite prendre sa retraite, mais plutôt essayer de prendre des retraites régulièrement dans sa vie.
Ouais, ok.
Ah, c'est cool.
Oui. quand on
et donc se... après ouais. une fois qu'il nous a fait changer d'état d'esprit, là il rentre vraiment dans des aspects pratiques, et là on est vraiment dans du life hacking. Moi j'ai retrouvé des conseils que j'avais entendu, bah notamment dans Nip Life que tu connais bien, Matt, mais aussi dans d'autres livres de développement personnel. Et donc comment prioriser, comment essayer d'évacuer tout ce qui nous fait perdre du temps. Et c'est plutôt très très concret. Et à partir de ça, ensuite, il nous propose des solutions pour automatiser. Alors là, on entre dans un domaine assez particulier. C'est très technique. Il y a des schémas. C'est très précis et c'est basé sur son expérience. Et il y a un élément qui est assez particulier. Alors, j'en avais déjà entendu parler, mais pas de manière aussi précise. C'est le domaine des assistants virtuels. Alors qu'ils n'ont de virtuel que le nom. Hein. Donc, en gros, c'est payer des gens qui sont au bout du monde et donc dont le travail quelque part ne coûte pas grand chose pour pouvoir leur déléguer un certain nombre de tâches.
Si vous voulez d'ailleurs un complément ou une expérimentation de ça, de déléguer des tâches à l'étranger, il y a un IPTech Explore qu'avaient fait Ben et Mike sur le sujet, où là, très concrètement, ils vous donnent des très bons trucs pour trouver des gens pour déléguer certaines tâches. Mais encore là, on peut pas déléguer tout.
Oui, je confirme, je l'avais écouté également, ça donnait pas mal d'indications.
Le titre, c'était Outsourcing.
Exact. C'est l'idée vraiment de décentraliser les choses qui sont. Ben, dans les faits, dans son livre, ce que je me rappelle, c'est qu'il voulait, il disait, donner à faire à d'autres les tâches que vous aimez pas faire. C'est vraiment le principe d'aimer les choses ou pas. Ce que vous aimez pas faire et qui vous gruge beaucoup de temps, ben là, donnez-le à d'autres. C'est pour ça l'idée du 4-1.
Ouais. Ou après, c'est peut-être pas forcément le fait d'aimer ou pas, mais c'est le travail à faible valeur ajoutée.
Exact.
À déléguer.
Oui. Donc la suite en fait du livre. Une fois qu'il nous a expliqué comment simplifier, épurer, automatiser, ça ensuite c'est quelque part profiter du temps qui nous a été donné par ces actions. Donc c'est vraiment on est libéré, et donc maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait pour occuper son temps, comment on l'utilise de manière profitable, comment on ne s'ennuie pas, parce qu'il a prévu le risque pour certains de s'ennuyer après avoir tout optimisé. Donc, ce sont des conseils pratiques. Et à la fin du bouquin, il arrive sur des retours autour de son blog. Parce qu'il y a son blog. Alors, j'essaie de me souvenir du nom du blog. C'est une URL en anglais.
forourworkweek.com.
Voilà.
Et puis.
Donc, il cite quelques passages du blog.
C'est toujours dans l'esprit de il cède de son livre pour son blog, dans son blog il parle de son livre.
C'est
un peu ça qui m'énervait à la lecture du livre puis à la lecture de son blog. Puis en même temps c'est normal parce que lui c'est sa vie, il doit travailler comme ça puis il doit avoir des sources de revenus comme ça, mais c'est un peu ça qui m'énervait dans le Tim Ferriss que j'avais lu dans son livre. Sinon au niveau concret là, des techniques à part outsourcer, est-ce qu'il explique d'autres trucs ou d'autres choses pour améliorer son quotidien?
Il y a plein de petites choses. Moi, le problème que j'ai souvent avec les livres de développement personnel, c'est que quand je les lis, je trouve plein d'idées formidables, mais souvent, je n'en retiens aucune ou presque. Parce qu'elles paraissent formidables au moment où on les lit, mais une fois qu'on essaie de les appliquer de manière concrète, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et elles sont toutes noyées, en fait, les unes avec les autres. Ce qui fait que il faut réussir soi-même à en identifier des réellement applicables et pratiques.
Il y a des trucs qui donne dans son livre là très simple là, comme utiliser Evernote. Mais encore là, vous avez vu que c'était un angel c'était un investisseur dans Evernote. Fait que c'est sûr qu'il plug encore une fois Evernote dans ces trucs. Mais c'est vrai. Il dit qu'il n'y a pas besoin de traîner des fichiers, des tickets, des clés USB. Il envoie tout dans Evernote. C'est le principe aussi hein, de ces logiciels là de conserver des idées, de conserver des concepts. Un autre truc bien concret, lui, il ne perd pas son temps à classer des fichiers sur son ordinateur. Quand il télécharge, tout va dans le répertoire download.
Ah oui.
Et puis il utilise tout simplement Spotlight ou le moteur de recherche du logiciel pour retrouver ses fichiers. Il dit que pour lui, il gagne un temps incroyable. Il y a une exception toutefois quand il en parle, c'est quand il classe juste ses photos. Pour le reste, il envoie tout ça dans download. Vous voyez un peu le genre de lâcher prise qui et de trucs dans le lâcher prise qui donne dans son livre. C'est assez intéressant.
Moi je retire quand même quelque chose de très positif, c'est l'état d'esprit en fait. Je trouve que quand mais faut peut-être le lire à un moment précis, en tout cas faut être réceptif, mais je trouve qu'il est motivant, il donne envie de se bouger et c'est un des maîtres mots je pense de ce livre, c'est l'action, c'est le fait que quoi qu'il arrive, si on a envie de changer quelque chose dans sa vie, il faut mener des actions et ne pas juste être dans la réflexion et attendre que les changements interviennent tout seuls.
Et en même temps, Tim Ferriss dit allègrement qu'il est stoïcien. Est-ce que vous savez ce que c'est être un stoïcien?
Oui.
Tu sais ce que c'est?
Tu te considères comme stoïcien, toi?
J'aimerais ça être capable de rentrer dans cette philosophie. Peux-tu nous l'expliquer, toi, Julien, ce qu'est un stoïcien?
Je vais donner la définition d'un stoïcien. Qui s'appelle Épictète.
Ouais.
Et Épictète, donc il résistait très bien à la douleur et il y a son disciple qui commence à lui tordre le bras et Épictète il dit attends arrête là tu me fais mal. Son disciple il continue il dit arrête j'ai vraiment mal et puis là le disciple il casse le bras d'Épictète et puis là Épictète dit tu vois je te l'avais bien dit.
C'est ça.
En gros c'est un stoïcien c'est une personne qui va rester stoïque. Donc, face à la douleur.
Ouais, c'est ça, exactement. Des exemples, là, premièrement, il faut s'entraîner à, les gens essayent de s'entraîner à réagir émotionnellement, de ne pas réagir émotionnellement de manière excessive lors des situations délicates. Fait que c'est ça, l'histoire du bras cassé. Bonne chance pour, quand quelqu'un vous casse un bras, de réussir à le faire. Et puis, il faut s'entraîner à chérir sincèrement les choses qu'on ne peut pas nous enlever, et uniquement ces choses-là. Fait qu'un peu, c'est ces deux gros principes-là des stoïciens. Et puis Tim Ferriss est vraiment dans cette lignée-là. Alors, ça fait effectivement réfléchir sur cet aspect-là dans le livre. L'ambiance, le mood, je comprends ce que tu veux dire, Yannick, par rapport à ça. Et puis, avais-tu d'autres...
Ouais, et vous travaillez combien d'heures par semaine, vous?
Yannick ou moi?
Je vais pas poser la question aux auditeurs vu qu'ils peuvent pas répondre.
Non,
c'est les auditeurs, vous répondez dans votre tête, hein. alors toi, Matt.
Alors sur les choses qui me font gagner, c'est drôle à dire, je pourrais pas te dire. Ça varie d'une semaine à une autre. Minimum c'est 35 heures, c'est sûr, 35-40 heures, puis des fois ça peut être plus, tout dépendant les projets que j'ai ou des fois il y a des moments dans la vie où tu dois donner plus de temps à ton travail. Toi Yannick, c'est à peu près ça ou?
J'aurais fait à peu près la même réponse que toi Matt. Alors bien sûr, j'ai un horaire de travail contractuel mais au-delà de ça c'est fluctuant, ça dépend de l'activité et ça dépend aussi de ce qu'on appelle travailler.
Ouais, tout à fait. Est-ce que le travail, s'occuper de ses enfants, c'est du travail?
Non. Je gagne pas d'argent.
Ok. C'est ça un peu la réponse là. Est-ce que du travail, c'est nécessairement quand c'est de l'argent en ligne?
Ah. Ouais, pour moi,
c'est un sujet un peu polémique en ce moment en France.
Ouais.
Ah, ok. On embarque pas là-dedans. Moi, c'est bon. Bon, ben c'est parfait. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Yannick, ou sur Tim Ferriss?
Oui, alors j'ai un élément un peu moins positif, on va dire, sur la lecture, c'est qu'il y a quand même un côté moralement discutable, je dirais, parfois, dans certaines techniques. Et donc, quoi qu'il arrive, moi, il y a des conseils qu'il donne que j'aurais du mal à suivre, parce que globalement, il nous conseille parfois d'être un sale type. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne.
Ouais.
Et quelque part, c'est un choix de vie que je n'ai pas encore fait, d'être un sale type, et c'est un peu délicat de se sentir.
Ça quand tu débutes dans le life hacking, le développement personnel, c'est quelque chose qui ressort souvent dans ces livres-là, tu mets le doigt sur un élément là, c'est d'être savoir dire non aussi des fois. OK, puis ça je veux pas que l'éclectique devienne ce type de podcast là, mais c'est vrai que dire oui tout le temps, ça peut t'amener des problèmes. Puis c'est peut-être dans ce sens-là que tu penses qu'il faut être un sale type, c'est ça Yannick?
Non, alors je vois plutôt ça comme un très bon conseil. Il y a notamment un exemple qu'il donne de sa vie où il a gagné une médaille d'or d'une compétition de boxe chinoise.
Ouais.
En gros, il a contourné les règles. Il n'avait aucune compétence réelle dans ce domaine-là, mais il a réussi, en lisant les règles, à trouver un moyen de gagner de manière qu'on pourrait qualifier de triche. Et lui, voilà, il considère que c'est plutôt être malin et savoir tirer avantage de toute situation.
Ah mon Dieu, c'est intéressant parce que moi, je suis vraiment, c'est le passage où j'ai aimé, où c'est vraiment du life hacking pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment de comprendre un système pour essayer de le contourner. Le mouvement life hacking pour moi, c'est ça. Mm-hmm. Puis comprendre un système, ça peut être en informatique, ça peut être des lois, ça peut être un peu tout pour les contourner, pour améliorer quelque chose. Lui, dans son cas, c'est sûr, c'était pour gagner. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que moralement, c'est un peu discutable pour gagner un prix par rapport à d'autres qui se seraient entraînés toute leur vie. Mais ouais, ok, ouais, intéressant la façon dont tu vois ça. Mm-hmm. J'avais pas vu ça. Bon, ben c'est parfait. Alors, on a fait le tour, je pense, du 4 semaines. Est-ce qu'on t'a convaincu, Julien, de le lire?
Non. Je suis désolé, mais non.
Non.
Mais je lis pas déjà. En fait. Je lis pas. J'ai pas le.
T'as pas le temps.
J'ai pas le courage. Je lis des livres audio. Voilà. Je suis un gros. Tu vois, je hack. Ça aussi, c'est du life hacking.
Oui. Oui.
Tu vois, là, t'as pas le temps. Du coup, t'écoutes un livre.
Ou tu te le fais lire par tes applications, parce que maintenant il y a beaucoup d'applications où tu mets un EPUB, un fichier livre dans l'application, puis elle va te le lire. Alors ça, je pourrais en conseiller quelques-unes.
Mais pire que ça, tu peux demander à Siri de te lire des articles.
Alors tu nous donnes le truc tout de suite. Comment on fait?
Ben en fait, tu mets sur. Alors moi, je connais le truc juste sur iOS, mais dans accessibilité, vous savez. Apple fait beaucoup de choses pour les handicapés, et donc il y a accessibilité, et donc là tu peux cocher une case. Alors, je sais plus où est-ce que c'est dans les réglages, dans accessibilité, je vous le mettrai dans les notes de l'émission. Ah, et puis bien. Après donc quand tu es sur un article, ça va très vite parce que tu swipes avec deux doigts du haut vers le bas. Ouais. Et ça te lit l'article, donc tu peux lire n'importe quel article et on gagne vraiment du temps avec ça.
Alors écoute, c'est un super bon truc que tu viens de me donner. Il y a bien des applications qui vont sauter sur mon téléphone pour faire exactement la même fonctionnalité. Alors l'autre élément que vous avez préparé, c'est y aurait-il une méthode ultime pour prendre des notes? C'est un article que j'ai trouvé super intéressant parce que toujours dans l'esprit du life hacking, quand on prend des notes pour une formation, un cours ou quoi que ce soit, ben il y a des façons, des meilleures façons. Il y a une meilleure façon que d'autres, semblerait, selon l'article, de prendre des notes. Ça s'appelle la méthode de Cornell. Grosso modo, c'est assez simple. C'est basé sur le fait de prendre des notes pendant une cours ou une formation et d'y revenir après. Mais d'y revenir dans deux étapes. Et puis après ça, vous allez voir comment. Alors. La méthode est assez simple, c'est une feuille normale pour prendre des notes qui est divisée en trois. Il y a une partie marge à la gauche pour laquelle vous allez vous garder de l'espace, puis une partie marge en bas aussi que vous allez prendre de l'espace. Dans les notes de l'émission, vous allez voir le pictogramme, ça va vraiment vous aider plus à conceptualiser ça. Grosso modo, une feuille de cahier avec une marge à gauche et un espace réservé en bas. Alors sur ça, vous prenez vos notes normales pendant une formation, un cours ou une conférence. Vous les prenez dans la partie centrale droite, je dirais, et vous prenez toutes vos notes. Par la suite, ce que vous faites, c'est 24 heures après, vous y revenez sur vos notes, et dans la marge de gauche, vous mettez des indices, des hashtags, hein, on pourrait appeler ça des hashtags, par rapport à certains éléments de vos notes que vous avez pris. Et dans le bas de la feuille que vous avez réservée, vous faites un court résumé de la page que vous venez d'écrire. En fait, de la page 24 heures avant que vous avez pour laquelle vous avez pris des notes. Les hashtags et le résumé vont vous aider à incruster en premier l'information, la synthétiser, la conceptualiser pour vous en mémoire. Après ça, vous allez faire des révisions. 24 heures après, vous allez retourner. L'important, c'est pas d'y retourner assez trop vite. Hein. Faut laisser un bon laps de temps pour que l'information s'imprègne au cerveau. Et puis, vous allez cacher la partie des notes, la prise de notes. Puis vous allez juste voir vos hashtags et puis aussi votre court résumé. Vous allez être capable, en fonction de ça, de refaire le schéma de pensée lorsque vous avez pris des notes. Ça paraît long, ça paraît fastidieux, mais pour l'avoir essayé, je vous assure que c'est quand même assez efficace. C'est la méthode Cornell. Il y a des cahiers de notes comme ça qui vous pouvez acheter pour prendre des notes, pour faire de la prise de notes, pour vos enfants même, pour leurs cours. Ou même, vous pouvez utiliser des applications pour le faire. Est-ce que tu connaissais ça? Est-ce que vous connaissiez ça, la prise de notes de cette méthode-là?
Alors, non, pas du tout. Non. Mais c'est que sur papier, alors là.
Alors, c'est que sur papier, oui et non. Parce que j'avais pensé aussi vous parler de OneNote aujourd'hui. Parce que pour ceux qui me suivent sur l'éclectique capsule, j'ai pris une marche l'autre soir et puis je vous ai parlé un peu de mon ressenti par rapport à Evernote. Je suis un peu en conflit avec cette compagnie-là parce que j'ai un problème avec le modèle d'affaires, mais le produit est excellent. Je voulais vous parler de OneNote parce que OneNote permet, et puis il y a plusieurs méthodes sur Internet qui vous le montrent, qui vont vous le montrer, d'utiliser la méthode Cornell pour faire la prise de notes. C'est sûr que la prise de notes et des résumés, tout ça, c'est toujours mieux manuscrit. Parce que lorsqu'on écrit à la main, il y a quand même de l'information qui s'imprègne dans votre cerveau. Fait que c'est certain.
Ouais, mais ça, c'est une question d'habitude, hein.
Je te remémorerai une capsule que tu écouteras de l'éclectique, tu iras voir sur le post.
Je l'ai écouté.
tu iras voir, on en débattra. Mais si tu veux vraiment utiliser la méthode Cornell de manière numérique, il y a un moyen avec OneNote. Alors OneNote, c'est quoi? C'est un outil, un peu comme on vient de parler avec Tim Ferriss, c'est un outil où vous allez emmagasiner toute votre information. Pour que ça fonctionne, c'est à peu près là où vous allez centraliser vos informations. Évidemment, pas des informations sensibles. Il y en a qui utilisent ça pour centraliser les factures. Faites attention, peut-être, parce que ces choses-là peuvent toujours se défaire ou se faire pirater. Plus l'information, je dirais, au niveau du travail qui serait pas sensible. On va classer ça comme ça. Alors, ces logiciels-là permettent de où vous allez centraliser toutes les informations, vos idées, des prises de notes, et ainsi de suite. Alors, OneNote permet de vous le faire. Permet exactement de faire la même chose.
Utilises ça, toi, dans la vie de tous les jours?
Oui, beaucoup de prises de notes. Ça permet aussi de faire des listes de tâches. Alors ça, c'est aussi intéressant d'avoir un outil qui fait plusieurs choses, plusieurs fonctionnalités. OneNote, l'avantage, c'est un produit Microsoft. Ces derniers temps, je vous dirais que les produits Microsoft ont une aura positive autour d'eux. OneNote n'en démord pas, lui aussi est très bien fait dans la lignée des nouveaux produits. OneNote est gratuit. C'est un outil de prise de notes, de classification avec des bloc-notes, tout ça est gratuit, collaboratif, très 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 bien fait, multiplateforme, web, iOS, Android, nommez-les, il est présent partout OneNote. L'avantage de OneNote, c'est qu'il est présent partout en ligne, mais il peut être aussi présent partout hors ligne. À la différence avec Evernote, où faut acheter le format premium pour avoir du hors ligne. C'est un petit peu déplaisant. OneNote, lui, ne vous limite pas en termes de gigs de data. Tant que vous allez avoir de l'espace sur votre OneDrive ou sur votre poste, vous allez pouvoir utiliser OneNote. Encore là, à la différence de Evernote, où faut la version premium. OneNote vous permet de sauvegarder vos carnets de notes en local, hein, si vous voulez pas synchroniser, vous êtes un peu freak comme moi sur la sécurité. OneNote permet aussi de récupérer des courriels directement. Alors vous pouvez faire des règles, certaines règles dans votre boîte de courriel, puis les envoyer directement dans OneNote et les classer. Des fois il y a des courriels de travail que vous voulez classer par projet. Alors OneNote vous permet de faire ça automatiquement. Ça vient aussi avec un espèce de module plugiciel que vous plugin. J'essaie d'avoir toutes les références culturelles. Plugin que vous pouvez installer sur vos furteurs, clipper ou pour prendre certaines idées. Alors vous êtes typiquement sur un article, vous voulez conserver cet article-là pour un projet, pour écrire un livre, pour écrire un article. Ben il y a un plugin qui s'appelle Web Clipper que vous pouvez installer et qui va vous permettre de le faire. Il permet trois choses, le Web Clipper, de prendre directement une photo de la page web sur laquelle vous êtes. Ça peut être intéressant si on veut conserver la mise en page, si on veut avoir une pérennité de cette information-là, ça peut être très, très cool. Il vous permet aussi de prendre juste une partie d'un article dans le Clipper, le OneNote Clipper, où il permet aussi de dénuder la page pour retirer tous les aspects graphiques, les publicités ou des choses comme ça, pour se concentrer juste sur le contenu. Fait que ça, ce plugin-là est super intéressant quand vous conservez beaucoup d'informations. Ça, au niveau du Clipper, c'est vraiment un plugin, un ajout par rapport à l'utilisation de OneNote qui est vraiment très, très cool. Évidemment, dans OneNote, il y a une intégration très, très forte des produits Office. Alors, tout ce qui est Visio, pour ceux qui utilisent Excel et ainsi de suite, ça va très, très bien s'intégrer. Vous allez pouvoir faire des captures de son. Vous êtes avec une personne, vous voulez conserver l'interview que vous voulez faire ou une conférence tout bonnement, ben, vous allez pouvoir conserver l'audio. Vous pouvez aussi conserver du vidéo. tout ça dans un même dossier. Toujours l'idée de conserver par thématique de l'information. Hein. Des fois, on travaille sur un projet, on prend une photo, une capsule vidéo ou un bout audio. Tout ça se regroupe facilement dans OneNote. Ça, c'est super cool. OneNote, faut le voir un peu comme nous on appelle ça un classeur chez nous, là, ces espèces de meubles où on met avec des intercalaires des feuilles par dossier. Et puis là, par rapport à Julien, tu vas aimer ça, par rapport à un outil d'édition normal, c'est vraiment un outil de prise de notes, mais pas séquentiel. C'est qu'on peut prendre dans une page, mettre des notes un peu partout. Puis là, je m'explique.
Tu peux zoomer alors?
Alors, oui, on peut zoomer, mais l'idée, c'est vraiment de placer des bouts d'éléments graphiques un peu partout. Alors, au centre, vous pourriez mettre une description d'un projet ou d'une... Exemple, une recette. Vous pourriez mettre la photo de la recette. À gauche, vous pourriez mettre les ingrédients. À droite, vous pourriez mettre le temps que ça a pris, des commentaires, ainsi de suite. En dessous...
Ouais, ça me parle.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas... Vous êtes pas pris dans un carcan, comme on pourrait dire, très linéaire. C'est vraiment... Vous le bâtissez... Et ça peut être linéaire. Hein. C'est juste très, très, très ouvert la façon que vous allez rédiger vos notes. L'idée en arrière de ça, c'est de pas vous limiter par rapport à ça. Ben, le concept d'onglet, le concept, tout ça, vous allez voir dans OneNote est très respecté. Puis là, je reviens avec la prise de notes Cornell, où ben là, vous pouvez faire vos notes à une partie, prendre vos hashtags dans une autre partie, puis faire le résumé de vos notes à une autre partie. Tout ça intégré dans la même note. C'est ça l'avantage avec OneNote. Grosso modo, c'est un peu l'outil. Je vous le conseille de l'essayer pour ceux qui voudraient comme centraliser toutes les bribes d'informations qu'ils recueillent, puis que vous avez absolument rien, essayez-le. Pour ceux qui, comme moi, payaient un gros forfait d'Evernote et puis que vous êtes un peu tanné de payer par rapport au service rendu, essayez OneNote. Maintenant, il y a des outils de conversion qui vont importer toutes vos Evernote dedans et puis vous n'allez plus avoir à payer le $60 que ça coûte par année. Et vous allez pouvoir le dépenser ailleurs. Et puis pour ceux qui sont dans Evernote et puis que la version Evernote fait très très bien, conservez Evernote. Evernote est un très bon produit s'il satisfait vos besoins. Toujours dans le life hacking, on va parler d'un sujet que Julien nous a apporté. En fait, de travailler debout. Ouais. Est-ce que vous travaillez debout à votre bureau, vous? Est-ce que vous avez le moyen de le faire? Est-ce que votre travail s'y prête? Moi personnellement, je fais un travail de bureau et puis j'ai un bureau surélevé et j'en suis très très content. Puis là, toi Julien, tu voulais nous en parler de bureau renversant, c'est ça que tu voulais nous parler?
Oui, c'est ça, oui, des différents types de bureaux, de standing desk, comme on appelle aux États-Unis, quoi, parce que ça vient de San Francisco. Moi j'ai entendu parler de ce truc là il y a 2 ans et au début je trouvais ça ridicule. Okay. Je voyais pas du tout l'intérêt de se mettre debout et de mettre carrément un tapis de marche en dessous.
Ouais.
Hein, et de marcher. Au fur et à mesure, l'idée est parvenue et l'intérêt d'un standing desk, c'est pas forcément, enfin c'est bien pour la santé, ok, d'accord, mais l'intérêt surtout c'est d'augmenter sa productivité, d'en fait de mieux travailler, et ça me parle comme proposition de valeur. Pourquoi on a un meilleur travail quand on alterne les positions assises, debout et quand on marche en même temps qu'on travaille? Parce que sous les pieds, on a une pompe sanguine, c'est-à-dire que c'est en marchant qu'on active la circulation sanguine.
Okay.
Et si on a une meilleure circulation pendant le travail, le cerveau est mieux oxygéné.
Ah, c'est tout
simplement. Voilà. Donc et vraiment, enfin moi ça fait environ à peu près 6 mois que j'ai un standing desk et je me dis pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi.
Et puis toi ton
surtout que maintenant les
ouais, toi le modèle que tu as, c'est un bureau qui se lève et qui se descend ou tu...
Alors Les standing desks, ça vaut cher, ça vaut très cher si on prend un bureau qui se lève. Enfin après il y a des prix en règle générale c'est 3 000 euros, quoi. Et là il y a Altwork qui a sorti un superbe, donc avec une chaise intégrée. Donc là tu peux carrément t'allonger, dormir au travail. Enfin voilà, tu peux carrément te retourner, quoi.
Ouais, ouais.
Donc ça c'est super intéressant. Et donc je me suis posé la question. Mais je me suis dit que il valait mieux splitter le lit et le bureau, quoi, pas tout rassembler en même temps.
effectivement. Toi, dans les notes que tu as mis d'émission, que tu vas les mettre dans ton graphique, c'est Altwerk qui est à 3 500 €. C'est quand même conséquent comme prix. Là.
Ouais, c'est quand même conséquent. Et puis après, moi, ce qui m'a aussi découragé, enfin, je trouve que le produit est assez joli. Oh, mais la télécommande qu'ils ont mis sur le bureau, elle est affreuse. Ça, c'est rédhibitoire. Enfin, oh là là, le truc des années 80 dessus, tu dépenses 3 500 €. Enfin, ouais, bon. Du coup, la télécommande, elle m'a pas plu, du coup. Mais sinon, pourquoi pas casser un tirelire pour acheter des trucs comme ça? Sinon, non, moi, j'ai acheté, plus modérément, chez Ikea. Ils font un bureau à 800 € avec des pieds télescopiques, donc il est tout blanc.
Oui.
C'est tout simple. Et à l'intérieur des pieds, il y a deux petits moteurs. Donc c'est intéressant aussi que ce soit pas à la main.
Non.
Et de pouvoir changer de position très souvent. En règle générale, je change 5 fois de position par jour en moyenne. Voilà, ouais, pour dire, ça. En fait, je m'en sers tout le temps.
En fait, le d'après les dernières études par rapport à la vie de bureau, d'être assis, c'est néfaste. C'est surtout de ne pas bouger. C'est surtout ça qui est très néfaste. Ils disent que en 2015, il y a un groupe d'experts britanniques là qui a publié un rapport qui disait qu'en moyenne, on devrait travailler. Puis là, c'est à mettre des bémols, hein, parce qu'on est encore, c'est encore très très nouveau. On devrait travailler en minimum 2 heures par jour debout. Ça annulerait un peu le niveau de sédentarité qu'on peut avoir dans les bureaux ou dans ces choses comme ça. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir 2 bureaux, j'en ai un assis, un debout, et puis avec mon laptop, je me promène de l'un à l'autre tout dépendant de la journée. Et j'ai remarqué que quand les gens viennent à mon bureau, automatiquement je me lève, je me mets sur mon bureau debout, les gens viennent comme on dit chez nous, s'accoter, puis là on parle. C'est toujours plus ouvert, c'est toujours plus les gens sont plus enclins à me parler, tandis que quand ils sont à mon bureau où je suis assis, c'est plus formel, c'est plus sérieux. J'ai pas le même niveau de conversation quand je travaille avec des gens debout versus des gens assis. C'est vraiment très très drôle. Et puis aussi, quand je travaille avec des gens debout, on va quand même assez vite à l'essentiel. Alors, à essayer aussi pour vous autres. Toi, Yannick, chez CGI en France, est-ce que vous avez le droit à des standing desks?
Pas encore, non. C'est un concept que je connais, hein. Je m'étais intéressé au sujet il y a quelques années, mais aujourd'hui, à part en allant dans notre café par exemple où il y a des manches debout, donc c'est des tables assez hautes éventuellement qu'on peut utiliser ponctuellement pour travailler, mais c'est pas encore rentré dans la culture d'entreprise.
Non, effectivement, puis c'est assez cher. Dans les bureaux, dans les notes, vous allez voir, là, il y a des bureaux, le High Clubby que Julien nous a donné à 7 500 €.
Ah, c'est russe. c'est russe comme projet, ça va.
T'as aussi
c'est livré avec du caviar.
Oui, puis de la vodka. Et puis, il y a aussi l'Empereur à 6 000 €. Alors, vous en avez beaucoup dans les exemples.
Donc, on a tous besoin de parler anglais, surtout quand on bosse dans la tech et dans l'informatique.
Oui.
Mettez vos OS déjà en anglais, hein. Donc c'est 5 techniques pour améliorer son anglais. Alors la première technique, c'est utiliser des traducteurs natifs. C'est-à-dire que sur iOS, macOS, maintenant depuis El Capitan et iOS, on est à 9 maintenant. Oui, on est à 9. Juste en faisant un clic droit, on a les traducteurs. Il y a un petit réglage à faire. Si vous l'avez pas fait, je mettrai les notes mettrai la méthode dans les notes de l'émission. Hein, je vais pas expliquer là comment on fait, mais voilà. Donc, et pareil sur iOS, vous pouvez télécharger des apps en anglais, lire sur une page web en anglais. Et il y a un mot que vous comprenez pas. Il suffit pour accéder au dictionnaire anglais facilement, vous tapez juste sur le mot et vous avez la traduction.
Ouais, ça, c'est
donc
très
là,
cool.
C'est
très cool.
Ça va vite, quoi.
Dans Office sur Microsoft, vous pouvez faire ça à grandeur. OneNote, tantôt, je vous en ai parlé. Vous pouvez aussi, dans OneNote, automatiquement faire des traductions. Puis ça, c'est natif à l'OS. C'est vraiment très, très, une très bonne idée.
Alors, il faut avoir un dictionnaire rapidement, quoi. Aller faire du copier-coller sur Google Translate, c'est pas possible, quoi. On perd trop de temps.
C'est plus long.
Il faut life hack et tout, hein. deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est Flix. Donc, ça s'écrit F-L-E-E-X. C'est génial. Flix, c'est des vidéos en anglais qui sont sous-titrées ou non en anglais. Et s'il y a un mot sur lequel on bloque, eh bien, on appuie avec le doigt sur le mot Et là, la magie, on a la traduction du mot et la vidéo s'arrête. Et après, quand on lâche, la vidéo reprend et c'est génial, quoi. Du coup, on a, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la prononciation des mots parce que là, c'est une vidéo. Et en plus, on peut l'arrêter, on voit le vocabulaire, on voit le mot écrit. Oh, c'est une tuerie.
Et puis ça laisse. Ça
mais tu as accès à quel excuse-moi, Matt. Tu as accès à quel type de vidéo sur Flix?
Ah oui. Alors ça, c'est un peu. On a pas toutes les vidéos. Alors il y a les TED, hein. Il y a les TEDx. Voilà. Donc il y a pas toutes les vidéos, mais il y a des vidéos super intéressantes. Enfin TED, il y a plein de trucs. Il y a à boire à manger. Ça intéresse tout le monde. C'est toujours sympa. Du coup, les TED. Maintenant, regardez des TED en anglais. C'est plus cool.
Ah, ben, voilà. tu peux le faire avec Netflix, YouTube, en tout cas sur le site, c'est ça qui est marqué, c'est vraiment cool. Ça, c'était une recommandation d'un auditeur de l'éclectique, hein, je pense.
Ah oui, ah là là, j'ai oublié de rechercher son prénom, je suis désolé, attends, je vais regarder sur Twitter.
C'est pas grave, on le mettra dans les notes d'émission, merci à toi, auditeur.
Merci à toi, auditeur, ah là là. On, d'ici la fin de l'émission, on va retrouver son prénom, hein, c'est le challenge. Troisième technique pour améliorer son anglais, c'est une technique Amazon. La technique Amazon, elle s'appelle WhisperSync.
Incroyable.
Est-ce que vous savez ce que c'est? WhisperSync, ça permet de lire et d'écouter en même temps un livre. Non, parce que regarder des vidéos, tout ça, c'est bien, mais là, faire de la grande littérature en lecture immersion reading.
Et puis ça, donc ça fonctionne
lit, avec... on écoute en même temps le livre.
Ça fonctionne avec tous les livres.
On retient les
Amazon.
Mots. Ah ouais, c'est génial. Du coup, aussi, on peut, par exemple, si tu prends le métro la journée, eh bien, tu mets ton livre audio, tu pars en métro et tu rentres chez toi. Et là, tes livres, ils se synchronisent. Donc, pas besoin de retrouver avec le marque-tapage où est-ce que tu en étais dans le bouquin. Ça se synchronise automatiquement.
C'est une application.
Deuxième recommandation. Ouais, ils ont une application. C'est ça, ils ont une application Amazon. C'est l'application Amazon de lecture, quoi.
Magnifique. Voilà. Et puis ton dernier truc,
c'est le seul. Ouais, c'est l'avant-dernier. Alors, le quatrième technique, c'est des synthétiseurs vocaux. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'accessibilité pour iOS.
Oui.
Du coup, là, vous pouvez le mettre en anglais. Donc, non seulement vous lisez l'article, mais vous le lisez en anglais à chaque fois. Et en plus, vous pouvez l'arrêter et regarder les mots de vocabulaire que vous connaissez pas. Du coup, ça permet d'avoir la prononciation du mot.
Ouais, vraiment.
Voilà.
Absolument génial.
Et dernière technique pour améliorer son anglais, c'est un logiciel canadien qui s'appelle Antidote et qui est en version 9 et maintenant. Donc, Antidote, c'est un logiciel de correction orthographique.
Fabuleux. Il est fabuleux.
Et
oui, dans mon équipe, j'ai une réviseur linguistique ou réviseuse, apparemment que les deux fonctionnent. Et Antidote, elle me le conseille souvent. Et puis, dernièrement, ils ont sorti un plugin en anglais. Et toi, tu l'as essayé, Julien?
Oui, bah là c'est en anglais. Du coup, maintenant, la version 9, elle sort en anglais, donc il corrige tes textes en anglais, quoi.
C'est vraiment une sommité, ce logiciel-là. Et si, en plus, maintenant, il t'aide en anglais, c'est vraiment un incontournable pour le prix. C'est vraiment... Et pour ceux qui font du web, les webmasters qui nous écoutent, vous avez la même version web qui s'appelle WebElixir. En fait, c'est le moteur d'Antidote qui se connecte à votre site et vous allez pouvoir tout scanner votre site. Il va vous proposer les corrections. Il va vous détecter automatiquement les fautes. Si vous travaillez sur un site en collaboration avec plusieurs personnes, vous pouvez le plugger dessus et automatiquement, il va vous trouver les fautes, vous faire les recommandations et directement dans l'interface, vous allez pouvoir faire les corrections en anglais et en français à partir de WebElixir qui a été faite par la même compagnie qui fait Antidote. La compagnie, c'est Druid. Alors, je voulais en parler un peu plus parce que c'est canadien. Alors, je vous laisse le choix à chacun un sujet. Toi, Yannick, trouve-nous un sujet pour lequel tu veux qu'on discute avant la fin de l'émission.
Un des sujets qui avait été partagé précédemment.
Pour lequel on a parlé, exemple, ton amour fou de Windows Phone ou un truc comme ça.
Alors, c'est pas le sujet dont je voudrais parler le plus. Donc, le sujet suivant était la réalité virtuelle.
Ouais.
Et c'est un sujet qui pourrait m'intéresser. Julien avait l'air d'avoir plein de choses à dire sur ce sujet-là.
Ah ouais. Plein de choses, non, et en plus, il y a de l'expérience.
Oui, non, mais la réalité virtuelle, c'est vraiment le sujet du moment, quoi. Là, 2016, c'est l'année de la réalité virtuelle. Là, ça, les casques sortent, il y en a. Qui veux-tu en voilà, il y en a plein. Toutes les semaines, là, j'en lis, il y a un nouveau casque qui sort.
Alors, toi Julien, t'as du recul par rapport à ça. T'en as déjà un depuis plusieurs années, hein, tu nous disais.
Ouais, j'ai la DK1 de l'Oculus Rift, c'est-à-dire la première version. Mais la réalité virtuelle, c'est un rêve d'enfant. Donc, quand on était dans les années 80, on est bercé avec la réalité virtuelle, et du coup, là, c'est vraiment une tuerie. Enfin, je suis toujours étonné des fois de lire dans les commentaires les avis partagés. Forcément, moi, je suis hyper pour. Bon, après, il y a la question du prix, mais bon, là, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit résumé vite fait de la réalité virtuelle là où on en est. Mais ça va encore bien sûr évoluer là fortement dans les prochains mois.
Vas-y.
Vous êtes prêts?
Vas-y, Julien.
Ok. Donc, en gros, là, il y a trois acteurs. Il y a Oculus Rift avec Facebook. Il y a Sony avec le PlayStation VR, et le troisième acteur, c'est le Vive. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Tout le monde fait son casque de réalité virtuelle, pratiquement. Google va faire le sien, LG a sorti le sien, Apple, ils vont probablement faire le leur. Razer propose un casque qui s'appelle, je sais plus, c'est OSVR. Et il y a même AMD, là, on a entendu, il y a énormément de casques. Et le petit problème sur les casques, c'est le prix. Déjà, premièrement, ça coûte hyper cher. Enfin, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on imaginait à l'époque. Les casques de DK1 d'Oculus Rift, ça coûtait 300 euros.
Et puis maintenant,
l'Oculus Rift, il est vendu 600 $ et 700 euros.
Toujours la conversion bizarre européenne que vous avez.
Ouais, non, c'est pas bizarre, c'est normal en fait. C'est 600 $, c'est sans les taxes, donc c'est normal en fait. Okay. Et donc l'Oculus Rift, il est vendu cher, 600 $. L'HTC Vive, il est vendu encore plus cher, il est vendu 800 $. Et par contre, le seul qui tire un peu son épingle, c'est PlayStation. Il est vendu moitié prix, donc il est vendu à 400 $. Le même prix que la PlayStation 4. Mais... Donc, à la rigueur, le tarif. Donc,
mais tarif tout ça doit être accompagné d'un ordinateur conséquent, là, ce qui fait que le prix peut être encore plus grand. Là.
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est que, alors pour PlayStation, c'est le moins cher. Une PS4, ça vaut 400 $. Là, le casque, il vaut 400 $. Donc, en gros, pour 800 $ à peu près, parce qu'il y a aussi la caméra qui est pas comptée dedans et qui vaut 50 $ encore. Mais en gros, pour 850 $, eh bien, on a un kit de VR. Et là, franchement, c'est vraiment une tuerie, quoi. Parce que on est vraiment à l'intérieur du jeu. C'est pas une petite avancée, quoi. On peut comparer, c'est vraiment une grande étape dans la tech, quoi. Hein. On peut comparer ça même à l'arrivée d'Internet. Parce que là, on n'est pas devant un écran, on est à l'intérieur de l'ordinateur. C'est vraiment un changement de paradigme fort.
Et puis, au niveau de la consommation de contenu, c'est principalement du jeu ou ben il y a des, j'ai vu qu'il y avait
là,
des films, il y a des, ok, c'est du jeu.
Ouais, alors là, il y a des films, hein. Il y a des films, des jeux, bon, pas beaucoup pour l'instant, mais alors là, par exemple, sur le contenu, Oculus, ils sont sortis. Là, il est sorti donc lundi. Lundi 28 mars 2016. Le PSVR, il va sortir à la fin de l'année, au mois d'octobre. Et l'HTC Vive, j'en sais rien, quand est-ce qu'il sort? Je ne sais pas. Bientôt, cette année, sûrement. Probablement, vu que là, ils ont sorti. Sur les contenus, il y a une cinquantaine de jeux qui existent. C'est plutôt 30 titres qui existent sur l'Oculus, mais bon, d'ici la fin de l'année... On va sûrement monter à 50, donc c'est déjà pas mal. Hein. Et puis les jeux, je sais pas si vous avez été voir les démos de Valkyrie ou de. Ça me donne vraiment envie, quoi.
Non, j'ai. D'abord, je suis pas un gamer. La seule fois où j'ai parlé de, je suis pas un gamer, fait que ça m'attire pas plus que ça. D'avoir quelque chose dans le visage. Déjà, les lunettes pour regarder du 3D au cinéma, ça me pompe l'air, c'est incroyable. Parce que moi-même, je porte des lunettes. Mais toi, tu disais que même avec des lunettes, on peut utiliser ces appareils-là.
Ouais. C'est ça. En fait, sur le côté, en tout cas, sur l'Oculus Rift, sur le côté, tu peux éloigner ou pas l'écran de tes yeux.
Okay. Voilà.
Donc, tu peux garder tes lunettes, mais il y a beaucoup de personnes qui enlèvent les lunettes parce qu'en fait, t'as l'écran, t'es juste à côté de l'écran, t'as pas besoin de tes lunettes, sauf si c'est Enfin, en tout cas, si t'es astigmate, quoi.
Ok.
Mais bon, alors, quand même, le problème de tous ces casques, et franchement, ça, je suis tout à fait d'accord, le gros problème en dehors du prix, c'est le câble. Oh là là, le câble, c'est l'horreur. Parce que du coup, t'es complètement immergé dans ton monde, et en fait, t'es relié physiquement à un objet réel. Alors ça, franchement, c'est vraiment très très chiant. Et il n'y a pas qu'un seul câble, hein. Il y en a trois sur l'Oculus, qui est relié sur ton PC.
Alors, ce qui fait que quand tu bouges, tu dois t'en mêler, tu dois tomber, non?
Ouais, ouais. Le casque est pas, le fil est pas super, super grand, mais, donc ouais, c'est anxiogène, quoi. et du coup, c'est ça, la nouvelle tendance, enfin, on voit la nouvelle tendance émerger, AMD a sorti un casque, là, donc avec, l'ordinateur directement intégré. Et ça, je pense que c'est approuvé par Steve Jobs. Parce que lui, il aime la simplicité. Voilà, il dirait, bah oui, il y a un casque, il faut qu'il y ait tout dedans. Il faut pas que ce soit branché à un câble, quoi. Donc là, AMD, ils ont sorti un casque qui vaut 1 500 $. Enfin, voilà, à peu près. 1 500 $. Et dedans, il y a tout. Et donc ça, c'est intéressant. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, en dehors des 600 € de l'Oculus, il faut payer un ordinateur qui vaut 1 000 $. Avec une carte graphique, balèze. Voilà. Donc il y a aucun Mac qui fonctionne au passage, hein. Il y a aucun Mac qui fonctionne à part peut-être des Mac Pro, mais encore c'est même pas sûr.
Ouais, c'est normal.
Il faut une configuration plutôt musclée.
Ouais, c'est ça.
Ouais, carrément.
C'est ça. Mais en même temps, c'est pas le cœur. Si c'est principalement des joueurs, c'est pas le cœur de métier de Apple présentement encore, les joueurs. Fait que c'est un peu normal, ils vont vers leur public cible. Alors au niveau des contenus, des films, des jeux, au niveau pro, est-ce que tu as vu toi des avec ton Oculus, avec ton recul par rapport à ça, est-ce que tu as vu
Non, il y a rien au niveau pro.
Il y a rien, absolument rien.
Enfin au niveau professionnel, non, c'est pas dans le business, c'est pour faire. Là, c'est vraiment pour faire du jeu et du porno.
Ah oui, du porno, quel bon.
J'avais pas. Ouais, ah ouais, c'est la folie, hein, c'est incroyable. Hein. Franchement, t'es à l'intérieur du porno, quoi.
Enfin, ah oui, toi, t'as essayé le porno et puis t'es à l'intérieur du porno. Peux-tu nous en décrire plus?
Bah, par exemple, les seins, t'es vraiment à 2 cm, tu les vois, mais en énorme devant toi. Hein. C'est impressionnant.
Ah, ok, parfait. Et puis, tu te tournes la tête et tu vois le perchiste, le caméraman, tout ça, c'est bien, non?
Non, c'est pas ça, en fait. Dans les films porno sur l'Oculus, en fait, c'est la même scène. C'est un peu bizarre à expliquer. C'est la même scène quand tu te retournes.
Ok.
C'est un miroir. Tu vois, parce que en fait l'arrière on s'en fout. Du coup ils ont fait un miroir. Voilà.
Ok.
Tu comprends?
Ouais, je comprends. T'as encore du chemin à faire pour me convaincre d'en acheter, de dépenser autant d'argent pour en acheter un. Mais ça, l'intérêt me gagne un petit peu. Toi, Yannick, est-ce que tu t'avais des questions par rapport à la VR?
Bah, je suis toujours intéressé par des retours d'expérience comme celui de Julien parce que j'ai pas essayé encore. Je serais curieux d'essayer. J'ai pas encore eu l'occasion. Mais je suis vraiment curieux de comprendre ce que ça peut apporter.
Ouais.
J'y vois beaucoup de freins, évident, mais en même temps, un peu comme Julien, c'était un peu un rêve de gosse. Enfin, en tout cas, moi, le jeu vidéo tel que je l'imaginais enfant, c'était ça. C'était pouvoir se promener dans un univers virtuel sans barrière physique, en quelque sorte. Alors même si là, comme Julien l'a très bien expliqué, il y en a encore, mais ça me fait rêver. Mais en même temps, je me vois pas avec un casque sur la tête dans mon salon. Ça pose beaucoup de questions, le prix. Donc je suis le sujet avec beaucoup d'attention. Je pense que ça va beaucoup évoluer. C'est un peu le sujet hype du moment.
C'est ça.
Pourquoi tu te vois pas avec dans ton salon? Tu vois, je me dis, les personnes ratent un peu leur... comment dire ça? Non, c'est pas ça. Je vais reformuler ma phrase, je vais recommencer ma phrase. Ont peur d'être dans le monde virtuel et de pas voir le réel. Mais HTC a fait, sur le casque HTC, il y a le contraire de la réalité augmentée. Tu vois, on parle bien de réalité virtuelle, mais ils rajoutent de la réalité dans la virtualité. Qu'ils vont superposer par transparence. Il y a une petite caméra et tu vas pouvoir remettre le monde réel dans la virtualité. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Mais le contraire de la réalité augmentée.
En même temps,
ce qu'on pourrait appeler la virtualité augmentée.
C'est compliqué. Mais en même temps, je pense qu'on arrive à ce niveau technique dont on est capable de faire des choses maintenant. Moi personnellement, j'avais utilisé le Virtual Boy de Nintendo dans les années 90 et j'avais été très très déçu. Mais je pense que c'est pas les mêmes types de casques. Mais ça c'est pour la blague. Ça c'est pour la blague. Mais je pense qu'on techniquement, on a prouvé qu'on était capable. Maintenant, ça va être un peu comme les smartwatches, c'est de trouver des use cases, des formats d'utilisation pour que ça devienne, pour que les gens en aient vraiment envie, vraiment besoin. Bon, là, tu me titilles un petit peu avec le porno, mais c'est une blague, tu sais, en même temps, si d'écouter un film, puis d'être proche, de zoomer, je peux comprendre, de jouer un jeu, d'être très, d'avoir l'immersion, je peux comprendre. Mais je peux comprendre aussi, Yannick, de pas se voir dans un salon avec ça, parce que déjà que dans les salons maintenant, je sais pas pour vous, mais nous, y a des tablettes, des téléphones, ce qui fait qu'on se parle plus. Et en plus, maintenant, on a un casque sur la tête, ça va être, on se verra plus, on aura peut-être plus de. Il y a un souci par rapport à ça, hein. Puis la Google Glass.
Non, mais tout le monde met un casque. Et puis on se retrouve tous dans le monde virtuel.
Alors là, c'est la matrice, mes amis. Vous êtes entrés dans la matrice. Oui, non, super intéressant comme sujet. C'est les cas les utilisations qui m'apparaissent encore. Trop faible par rapport à l'utilisation. Puis tu vois, toi, ça fait 3 ans que t'en as et tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'applications. Quand même.
Ben si, il y en a plein. Hein. Enfin, c'est le début, là, forcément. C'est l'œuf et la poule, hein, donc, sur les jeux et les consoles. Hein. Mais là, c'est la folie, là. Hein. Là, les jeux, les éditeurs de jeux vidéo, ils se bousculent, là, pour tous créer des. Peut-être, tu vois, le nombre de casques qui sortent, là. Tout le monde sort son casque. C'est la ruée vers l'or.
Hey, t'es enthousiaste. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir plein d'informations, des bêta-testeurs ou des choses comme ça, vous allez voir l'ami Julien. Il va vous référer à beaucoup, beaucoup de techno par rapport à la VR.
Ouais, encore une dernière petite anecdote drôle. McDonald's a sorti donc le Happy Meal réalité virtuelle. Donc c'est mon micro là. Le Happy Meal donc que tu démontes et t'as les petites lunettes donc que tu peux transformer ta box de Happy Meal en réalité virtuelle. Et Coca-Cola aussi a fait pareil avec l'emballage des canettes de Coca. Je trouve ça super super malin d'un point de vue marketing.
Ce qui veut dire que tu crées un support comme les Google Cardboard.
Voilà, c'est ça.
Un smartphone ou une tablette.
C'est ça.
Bah écoutez,
c'est bien.
Pour toute entreprise, Oculus, PlayStation, si vous avez besoin d'un représentant pour votre technologie, vous contactez l'ami Julien, il va vous vendre ça comme des petits pains et vous allez faire fortune. Bon, mais très bien, merci beaucoup Julien. Julien, toi, avais-tu un petit sujet rapidement que tu aurais voulu qu'on aborde avant la conclusion d'émission?
Les porno mid-sight.
Bon ben là on est
décidément
on va aller dans la catégorie de la besace avec les Pornhub Insight. Les Pornhub Insight, c'est quoi? Alors quand j'en ai parlé à Julien et Yannick, ils ont beaucoup ri. C'est que Pornhub, la compagnie qui fait le site porno, fait à chaque année des insights et en fait détient beaucoup beaucoup de données qu'ils partagent allègrement. Des données super intéressantes pour ceux qui sont dans l'industrie pornographique, mais des données super intéressantes aussi pour ceux qui sont dans le domaine du web, pour les développeurs, pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont même au niveau marketing, pour voir les tendances. Puis moi, j'utilise les Pornhub Insight dans mon équipe où on se réunit puis on rit, c'est pendant une pause, hein, on rit, on regarde les derniers Pornhub Insight, mais juste la partie technologique qui m'intéresse le plus. Alors, là-dedans, vous avez à boire et à manger, encore une fois, vous avez beaucoup, beaucoup de choses de données, les films, les actrices les plus vues, tout ça. Mais moi, c'est vraiment au niveau du worldwide device utilisé qui je trouve ça très intéressant. C'est là que vous savez que le téléphone mobile, c'est la plateforme la plus utilisée pour consulter du porno. Oui, ce petit écran de 5 pouces ou 5 pouces et demi pour certains est le moyen le plus fréquent pour consommer de la pornographie. Ça reflète évidemment l'utilisation du mobile de plus en plus présent dans nos vies. Alors pour ceux qui voudraient développer des choses, ben peut-être commencer à développer des pistes marketing, des pistes de sites web plus mobiles avec 52% d'utilisation sur cellulaire, 10% sur tablette et le format desktop est à 36%. Alors dans le monde de... Et puis le desktop descend. Hein. En 2015, il a encore descendu de 18%. Alors, c'est une bonne descente en ce moment. Et le mobile, le téléphone augmente de 18% aussi. Fait que tout ce qui est pris pour le desktop s'en va sur le mobile. Bon, vous me direz que avec les films, on peut comprendre que certains veulent s'isoler avec le petit téléphone et c'est plus pratique que de prendre un desktop, je peux comprendre, mais ça reflète quand même l'utilisation et la forte croissance du mobile. Je défonce des portes enfoncées, mais quand même, pour ceux qui voudraient mettre des chiffres à l'appui au niveau des projets, ça peut être intéressant de mettre des Pornhub, Eatsite dans vos PowerPoint. Vous avez aussi une déclinaison par pays. Vous savez, par pays, l'utilisation plus par mobile. Les plateformes, Apple est en forte progression avec Mac sur desktop, avec un gros 13%. Windows commence à descendre avec un moins 4%. Et puis, au niveau des plateformes mobiles, la phrase que j'aime dire, les plus gros branleurs sont sur Android, avec 47.9% d'utilisation de la plateforme Android. Mais les gens sur Apple sont pas loin non plus, avec 46% d'utilisation sur mobile pour consulter du porn. Vous irez voir, je vous mettrai ça dans les notes de l'émission, c'est super drôle. Mais il y a aussi une saveur aussi professionnelle qui peut être intéressante pour ceux qui en ont l'usage marketing, je dirais, ou mobile. Ben voilà, messieurs. On conclut l'émission toujours depuis, c'est une tradition que je fais avec la conclusion, c'est avec le mot français du mois. Je sais que rares sont ceux qui aiment le mot français du mois, mais moi je tiens et j'insiste, je veux améliorer la langue française avec des belles découvertes comme cette semaine. Je vais vous parler de collimage et de créacollage. Savez-vous ce que c'est? Vous le savez, vous en avez parlé hier, hein? Mais faites les surprises.
Mais moi j'ai oublié.
Ok, alors.
Mais qu'est-ce donc, Matt?
Merci, vous êtes de très bons
amis. Ah oui, ça y est, je m'en souviens.
Le créacollage ou le collimage, c'est une technique, pour ceux qui connaissent, de scrapbooking. Qu'est-ce qui est du scrapbooking? C'est comme disait Yannick hier, et je reprends tes propos pour me cacher en arrière de toi, c'est une activité plus féminine. C'est de prendre des albums photos et de faire du collage avec d'autres photos, des décors et des choses comme ça, du scrapbooking, vous irez voir ce que c'est. Le terme francisé québécois maintenant, c'est du créacollage. Ah, mais ça fait juste rire moi, je suis content, ça me fait plaisir.
Non, t'es tout seul, là.
C'est ça. Je vais vous laisser tout seul. On va aussi conclure avec une citation que j'ai beaucoup aimée. La citation de la semaine.
Je
reprends l'idée de Niptec et de Mike. La citation.
Tu voles l'idée de Niptec.
Je préfère reprendre, c'est moins...
Ouais. Tu pilles.
C'est ça. La première citation, c'est de l'abbé Pierre. Et c'est pas parce qu'il était catholique que je le reprends. Je ne suis pas pratiquant. J'ai été baptisé comme beaucoup d'occidentaux, mais absolument pas pratiquant. Et puis, en tout cas, j'ai mes valeurs personnelles, mais elles ne sont pas religieuses. Ça vient de l'abbé Pierre. Et la citation... Julien, tu vas nous la lire?
Yannick, tu traduis? Alors, c'est une citation en français.
Faut que je traduise du français au français, c'est ça?
Ah, ils font ça dans Niptec, hein. Du coup, on fait pareil, hein. Alors, quand chacun d'entre nous attend que l'autre commence, qu'il ne se passe rien.
Exactement.
L'abbé Pierre.
Exactement. Alors là, ça fait référence à plein de trucs, au niveau professionnel que personnel. Quand vous attendez que l'autre commence, généralement, ben, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est aussi le pendant de cette phrase-là. Dans les projets, c'est un peu ce que on disait tantôt avec Yannick. Dans les projets, quand on met beaucoup de monde, ben finalement, on attend que tout le monde commence. Dans la vie en général, quand on attend que quelqu'un nous donne quelque chose, si on le demande pas, il se passera rien. Grosso modo, c'est quand chacun d'entre nous attend que l'autre commence, qu'il ne se passe rien. Ah, est-ce que ça vous parle, vous deux?
Moi oui, ça c'est un concept. Pour moi c'est du bon sens, hein, de la part de l'abbé Pierre, nous a reproposé cette phrase. Mais c'est ce qu'on appelle l'attentisme. C'est le fait que quelque part on a tous parfois cette attitude d'attendre que quelque chose se passe, alors qu'on pourrait être acteur. Et si tout le monde se comporte comme ça, effectivement il ne se passe rien. Et c'est vrai que dans le domaine professionnel c'est assez classique, notamment dans le cadre d'une réunion où on peut se retrouver avec plusieurs acteurs autour d'une table. Et que chacun attend que les autres bougent, alors pour des raisons parfois politiques ou juste parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et parfois, il suffit de prendre la main, prendre la parole et de faire en sorte que les choses avancent, pour que quelque chose se passe.
Soyez maître de vos destinées, mes amis. Et c'est ce qui met fin à l'émission, à l'éclectique sur ces belles paroles de Yannick. Merci,
messieurs. Oh non,
messieurs.
C'est déjà fini.
Ben oui, merci. Merci, Julien. Merci, Yannick. C'était vraiment super, super plaisant. Et puis.
Merci à toi, Matt.
Si les gens veulent vous discuter ou continuer des conversations sur la réalité virtuelle, Julien, ils peuvent te trouver où sur les intertubes?
Alors, sur Twitter, @dyb, D-I-Y-B. Comme Download in Your Brain. C'est une chaîne YouTube qui n'est pas encore sortie, qui sortira bientôt, dans plusieurs mois, voire plusieurs années.
Et puis toi, Yannick, si on veut échanger avec toi, prendre des conseils sur l'attentisme, un terme que je viens d'apprendre et qui est français et que j'aime beaucoup, on te retrouve où?
Eh bien, me retrouver également sur Twitter. Alors, mon pseudo est beaucoup plus long que celui de Julien. Donc, c'est @www.yannick.
Parfait. Merci, messieurs. Et puis, pour l'éclectique, si vous voulez avoir, nous rejoindre, commenter, poser des questions, ou nous rejoindre, ou nous suivre, ou nous syntoniser, tout simplement, eclecticshow.com. Vous allez retrouver notre page Facebook, notre page Twitter, j'ai l'air big en disant notre page, non, ma page Twitter, la page Facebook et de l'émission. Si vous voulez me communiquer avec moi directement, profduweb.com sur mon site, ou profduweb sur Twitter, ou profduweb partout, vous allez me retrouver assez facilement. Et puis, ben, n'oubliez pas d'aller mettre un 5 étoiles sur iTunes. Ça n'a pas été très très fort dernièrement. Les téléchargements sont en hausse, mais les 5 étoiles sur iTunes sont en chute libre. Alors, allez en mettre des 5 étoiles ou sur toute autre plateforme, Spreaker et ainsi de suite. Et puis, je vous souhaite un très bon mois d'avril, en espérant que vous allez avoir beaucoup de soleil et beaucoup, beaucoup de beaux projets et beaucoup, beaucoup de belles choses qui vont vous arriver dans la vie. Allez, on vous souhaite un très bon mois. Allez, ciao, ciao, bye bye.
Ciao, ciao, bye bye.
Oh,